There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pori@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Une première à Toronto, ménage à trois, un spectacle de drag queen hilarant, du jamais vu. Eh oui, avec DJ sophistiqué, looks flamboyants, écran géant, chorégraphie bien rodée, rythme pop endiablé, avec trois drag queens une fois par mois au drink cocktail and pizza bar sur la rue Church. Inscrivez-vous à notre infolettre à popourri@cut.fm et courez la chance de gagner un coupon cadeau de 25$ gracieuseté de drink, cocktail and pizza bar sur la rue Church au sud de la rue Maitland. Un endroit caché, oui, au deuxième étage de la rue Church, au cœur du village gay. Ménage à trois, trois drag queens, une soirée en français, une fois par mois, une première à Toronto. Retrouvez les dates des prochains spectacles sur popourrichaud.com. CUT 89,5 FM et Potpourri Show, 35 ans de fierté. À l'occasion de ces 35 ans, CUT 89,5 FM sera à 40 degrés à l'ombre cet été. Évadez-vous avec notre édition spéciale en partenariat avec de nombreux partenaires du monde associatif, littéraire et du monde culturel. De la musique, de la poésie, les podcasts du Créfou, de l'humour et des invités surprises. En cette période estivale, Potpourri Show vous accompagne. À la ville ou à la campagne, ou même à la plage du 3 juillet au 28 août sur CUT 89,5 FM, la radio de votre été sur www.cut.fm.
Le TGV numéro 8617 et l'idée TGV numéro 2971 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest, départ 14h23, partiront Voici. Ces TGV desserviront Guingamp et Morlaix. Ces TGV comportent chacun un service de restauration et des aménagements pour les personnes handicapées. Il comporte l'idée TGV, voiture 11 à 18, située à l'avant du train. Nous invitons les clients idée TGV à se présenter à l'embarquement situé à l'entrée du quai. Madame, monsieur, nous vous rappelons que pour être valables, les billets que vous avez achetés doivent être compostés avant l'accès au train. La SNCF vous souhaite un agréable voyage.
Dimanche 28 août 2022, Potpourri Show toujours en mode estival, de retour en ville le 17 septembre. Bonjour et bienvenue à notre édition spéciale de l'été 40 degrés à l'ombre. Montage, mixage et mise en onde, DJ Devera, conception et animation, Eric Adair sur www.cut.fr. Pour télécharger nos émissions, que vous soyez sur la planète, une seule adresse, popourrichaud.com. Un immense merci à nos fidèles auditeurs qui sont au rendez-vous chaque dimanche. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. Et merci au Festival international du film de Toronto du 8 au 18 septembre pour les billets gratuits réservés aux membres de la radio Potpourri www.cut.fm. Et merci au Créfou et ses podcasts. Quoi de neuf à les cafés du Créfou? Merci à Ciné Franco qui fête ses 25 ans et ses excellentes recommandations ciné pour l'été sur notre page web popourichaud.com. Et merci aux éditions Prise de Parole et ses rendez-vous littéraires sur prisedeparole.ca. Merci au Centre maghrébin du Canada consacré à la littérature francophone du Maghreb et de l'Ontario français situé à l'Université York. Merci au Festival Compazouk Ontario qui a connu un vif succès dans le cadre des événements du Carnaval caribéen de Toronto. Et oui, FKZ sera des nôtres tout au long du mois d'octobre, le mois du créole. Et merci à Sophie Franc qui fête ses 15 ans au service des immigrants francophones du Niagara et de Welland. Et merci à l'école de la radio Promédia, mon école à moi, qui célèbre ses 40 ans de passion cette année. Et oui, bienvenue à notre tout nouveau partenaire, le Drink Cocktail et Pizza Bar. Et la soirée Drag Queen, Ménage à Trois, Richard Chocouin, Maitland, une première à Toronto. Et participez à nos émissions et courez la chance de gagner des cadeaux du Drink Cocktail et Pizza Bar. Et n'oubliez pas l'unique concert de Stromae au Coca-Cola Coliseum, 29 novembre à Toronto. Tournée multitude qui connaît un vif succès partout en Europe. Bravo aux gagnants des billets de concert et tous les détails sur notre site popourichaud.com. Et enfin, le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, le KEPCA en créole, vous donne rendez-vous à sa 21e édition du mois du créole. Et la porte-parole cette année, Rebecca Jean. Autrice, compositrice, interprète et réalisatrice, Rebecca Jean est née au Québec de parents haïtiens. Elle se définit comme une haïbécoise, une toute nouvelle expression pour moi. Elle sera des nôtres au mois de septembre. Et chaque dimanche, je vous ferai découvrir une de ses chansons de vraies perles, vous verrez. Retrouvez tous les liens et ses clips sur le parcours artistique de cette artiste, Rebecca Jean, porte-parole du mois du créole à Montréal, édition 2022, en visitant son site web rebeccajean.ca. Et si vous souhaitez parrainer une de nos émissions dans le cadre du mois du créole, écrivez-nous immédiatement popourri@cut.fm. Et au sommaire de l'émission de ce dimanche, coup de cœur littéraire de l'été avec « Dans la splendeur de la nuit », l'ouvrage inédit de Dany Laferrière, présenté par Alain Mabankou et TV5 Monde. Haïti, un an après le séisme du 14 août 2021, les sinistrés déplorent un manque d'aide humanitaire et de l'État. Les opérations de reconstruction sont pratiquement au point mort. Hommage au chanteur français Daniel Lévy. Pas connu nécessairement ici, chez nous, mais cependant très connu en Europe. Et enfin, nous entendrons quelques chansons de la playlist de l'été. Mais pour tout de suite, un nouveau rendez-vous dédié aux Français de l'étranger. La thématique de ce dimanche, comment gérer la double carrière des couples expatriés. Un livre sur la gestion de la carrière des conjoints d'expatriés, tel est le titre du premier livre d'Armel Perban. Paru en français et en anglais, destiné aux entreprises qui veulent aider les conjoints d'expatriés à trouver du travail. Conjointe d'expatriés dans 7 pays, Armel Perban est aussi la créatrice d'Absolutely French et d'Absolutely Talented qui accompagne les conjoints suiveurs. Place à Corinne Manjou, animatrice du magazine Vivre Ailleurs sur Radio France Internationale.
Gérer la double carrière des couples expatriés, le nouveau défi des DRH. C'est le titre du premier livre d'Armel Perban, paru en français et en anglais, destiné aux entreprises qui veulent aider les conjoints d'expatriés à trouver du travail. Conjointe d'expatriés dans 7 pays, Armel Perban est aussi la créatrice d'Absolutely French et d'Absolutely Talented, qui accompagne les conjoints suiveurs.
J'accompagne les conjoints d'expatriés depuis une dizaine d'années maintenant. Il y a beaucoup plus de conjoints maintenant qui veulent travailler qu'il y a 10 ans. Et du coup, pour moi, c'était une nécessité d'expliquer aussi et aux expatriés et aux entreprises qu'il fallait adapter l'accompagnement des conjoints quand ils arrivent dans les nouveaux pays pour favoriser cette double carrière chez les couples expatriés.
Il y a donc une évolution du profil des conjoints expatriés aujourd'hui puisque 80% d'entre eux au départ déclare vouloir continuer à travailler.
Pourquoi cela? Parce que la société évolue et il y a aussi une évolution des conjoints d'expatriés. On a de plus en plus d'hommes aussi. Nous, par exemple, chez Absolutely French, quand on a commencé, il y avait 0% d'hommes et on est en ce moment à 27% d'hommes. Qui aussi influe sur les gens qui souhaitent travailler. Les femmes sont plus souvent en retrait que les hommes. Après, là, on accompagne beaucoup de femmes qui veulent absolument travailler. Elles pensent beaucoup plus à leur carrière que les conjoints d'expatriés il y a 20 ans.
Et vous écrivez aussi que les conjoints masculins sont mieux accompagnés que les femmes. Qu'est-ce qui explique cette différence encore aujourd'hui?
Je pense que les femmes ont toujours cette notion un peu plus de sacrifice, je dirais, pour la carrière du conjoint, qui est en train d'évoluer, donc c'est quand même bon signe, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour que ce soit égalitaire dans les couples expatriés.
Quelles sont les attentes à la fois professionnelles et personnelles aujourd'hui des nouveaux conjoints d'expatriés?
Alors, ils veulent s'intégrer pour trouver du travail ou faire une formation ou mettre en pratique des nouvelles choses ou découvrir un nouveau métier. Enfin, ils sont très en demande de valorisation de leur CV. Donc, ils veulent plus juste apprendre la langue pour s'intégrer, par exemple, mais ils vont aller plus dans OK, je vais apprendre la langue, mais pour travailler ou pour faire une formation ou pour faire du bénévolat et développer des nouvelles compétences. Enfin, voilà. Il y a vraiment une envie d'optimisation d'expatriation.
Quels sont les outils et les moyens qui sont mis à la disposition de ces conjoints pour favoriser la recherche d'emploi et donc aider leur carrière?
Ça dépend des sociétés. Beaucoup d'entreprises déjà offrent des cours de langue. Pour moi, c'est le premier outil d'intégration. Donc, c'est très important quand on arrive, par exemple, en Chine, d'apprendre le chinois parce que ça va aussi permettre de comprendre la culture et l'environnement et comment fonctionne le monde du travail. Donc, la langue est clé quand même dans l'intégration. Donc, beaucoup d'entreprises ont bien compris ça. Et après, il y a des sociétés qui aident à du coaching pour aller chercher un emploi ou juste pour réfléchir sur leur projet professionnel. Donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Évidemment, il y a des agences de relocation qui aident au déménagement, mais chaque société a un peu son package et le budget qu'elles veulent mettre dans le conjoint. Il y a aussi des formations. C'est-à-dire que maintenant, il y a des sociétés qui ont même un budget formation pour se développer professionnellement. Et ça, beaucoup le font. Hein. Donc, les conjoints ne sont pas forcément au courant, mais si elles demandent à la société de leur mari ou de leur femme, quasiment à 90% des sociétés le font, hein, il y a un budget de formation. Donc, il faut aller le demander parce qu'on n'a pas forcément entendu parler.
Est-ce que pour cette problématique, tous les couples sont traités de la même façon? Je pense notamment aux couples non mariés conventionnellement et même les couples homosexuels.
Moi, je vois pas du tout de différence entre les couples classiques et les couples LGBT. On travaille avec des sociétés qui accueillent les deux et ils ont exactement les mêmes packages. Hein. Donc, ça n'a pas d'incidence sur la carrière.
Alors, est-ce que les conjoints expatriés peuvent travailler dans tous les pays?
Et non. Quand on n'a jamais été expatrié, on n'en a pas forcément conscience, mais il y a des pays où on ne peut pas. Et ça dépend des accords avec le pays initial. Il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Permit Foundation, qui reprend tous les pays et qui milite pour que tous les conjoints puissent travailler dans tous les pays du monde. Si vous allez voir, il y a à peu près, il me semble de mémoire, 80 pays où on peut. Et donc, tout le reste, les conjoints ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas obtenir un visa de travail. En Inde, par exemple, au Mozambique, moi où j'ai vécu, hein, c'est des pays où on ne peut pas travailler en tant que conjoint d'expatrié. C'est politique, hein, suivant les accords qu'ils ont entre pays, souvent, en général. Ils essayent de s'entendre entre le pays d'origine et le pays où ils vont. Et s'il n'y a pas d'accord, les conjoints ne peuvent pas travailler.
Et il y a aussi des pays où certains couples ne peuvent pas aller.
On m'a raconté une histoire, hein, en Chine où ils avaient un couple homosexuel qui devait envoyer en Chine et ce n'était pas toléré d'habiter deux hommes dans le même appartement. Et du coup, ils avaient trouvé deux appartements sur le même palier. Et donc, ils n'habitaient pas officiellement ensemble, mais les entreprises font en sorte que tout le monde soit heureux et que l'expatriation soit bien. Mais oui, il y a des pays où il faut un petit peu
s'adapter.
Faire avec les lois, voilà, s'adapter avec la réglementation.
Vous écrivez que l'objectif de ce livre est avant tout de faire changer le regard porté sur les conjoints d'expatriés. Pourquoi cet objectif est-il encore nécessaire aujourd'hui, à votre avis?
Parce qu'on considère beaucoup les conjoints d'expatriés comme des privilégiés. Et il y a quand même des choses qui sont difficiles à vivre quand on part en expatriation. Alors, on dit oui, mais ils ont plein d'argent, ils ont des cartes bleues, ils vont faire du shopping. Oui, mais non, le conjoint, il est aussi très utile à l'entreprise. Et il a aussi envie d'avoir une carrière, elle a aussi envie d'avoir un travail. Et je veux changer ce regard. Je veux montrer aussi que chaque conjoint développe des compétences très, très intéressantes sur le monde du travail. En vivant comme ça à l'étranger, ils deviennent multiculturels, ils parlent plusieurs langues, ils sont très, très adaptables. Ils sont très bien organisés. Ne pas les voir comme des bagages, mais plutôt comme des point positif pour l'expatrié et l'expatriation, et donc pour l'entreprise. Et c'est ça que je veux changer. Je veux que les entreprises prennent conscience de ça. Ils ont affaire à des talents et non à des poids lourds.
France 24 vous propose les observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifié par les journalistes de France 24 et publié sur notre site. Les observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les observateurs, ce sont eux, c'est lui, c'est elle. Et pourquoi pas vous? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de paille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. De druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer? Et car la tribu de Dana appartenait à ces terres. Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana.
Oh, ça suffit le monde, on remballe. Allez, on part en bateau pour la journée.
Mais bien sûr, et on peut prendre mon hélicoptère aussi si tu veux. Hein.
Sur clickandboat.com, réservez un bateau en quelques clics depuis votre mobile, même à la dernière minute. Bateaux à moteur, voiliers, catamarans, profitez d'un choix de plus de 30 000 bateaux sur clickandboat.com avec ou sans skipper.
Click and Boat!
Cliquez, réservez, naviguez.
Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme Jeunesse, exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Et je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés, une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête tout au long de l'année en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Ciné Franco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popourri Show, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Ciné Franco, 25 ans pour l'amour du cinéma.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festivébène, un salon du livre, des ateliers et des projets ambitieux et novateurs. Sophie Franco, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franco en cliquant sur sophiefranco.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franco vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranco.org. Sophie Franco, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franco. Le mois du créole de Montréal, organisme partenaire de Popourri Show, vous convie à la 21e édition du mois du créole en octobre. Participez, faites-vous connaître, inscrivez votre activité culturelle dans le programme officiel du mois du créole en visitant moisducréole.info. Tout au long du mois d'octobre, Popourri Show CUTFM, en partenariat avec le mois du créole à Montréal, célèbre le patrimoine culturel créole. Pour nous joindre, popourri@cut.fm ou visitez moisducréole.info. Popourri Show, 35 ans, fier partenaire des festivités du mois du créole au Canada. Allez, bonjour tout le monde.
Haïti Top News, Les faits saillants de l'actualité en toute impartialité. Haïti Top News, mieux vous informer et notre savoir-faire. Haïti Top News, le canal sûr de l'information.
CIUT-FM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. Popourri Show et CIUT-FM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil, je tire une coupe de pof de clope. Job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. J'prends le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, Truckers, pas vraiment un Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée sur emballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le bar, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruinés à faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partant fumer tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, poigné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi
à travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond du cœur.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFOT, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFOT, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du Créfaut et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Et oui, dans le cadre de notre partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFOT, j'ai le plaisir de vous présenter un extrait d'un des podcasts « Quoi de neuf à les cafés du CREFOT ». Dans ce podcast, professeur Monica Heller, membre du CREFOT, rencontre Jean-Pierre Corbeil, chargé de cours en démo linguistique et études des dynamiques linguistiques à l'Université de Montréal. Jean-Pierre Corbeil a été directeur adjoint à la division de la diversité et de la statistique socioculturelle de Statistique Canada. Il y a également dirigé le centre de la statistique ethnoculturelle, langue et immigration. Après avoir obtenu un baccalauréat et une maîtrise de l'Université McGill, il a obtenu un doctorat en sociologie de l'Université de Montréal ayant pour thème l'analyse sociologique des attitudes discriminatoires et des comportements racistes. Il travaille dans le domaine de la démolinguistique et étudie la situation linguistique au Canada depuis près de 25 ans, période durant laquelle il a publié plus d'une cinquantaine d'articles, de rapports et d'autres documents analytiques sur le sujet, en plus de compter à son actif plus d'une centaine de communications scientifiques dans divers colloques et forums. Avec tous les récents sondages et débats sur la diversité culturelle au Québec, ce podcast tombe à point. Quoi de neuf, les cafés du Créfaut. Entretien avec Jean-Pierre Corbeil, que vous retrouverez sur le site web du Créfaut. Et oui, vous allez sur quoideneuf.ca ou encore retrouver tous les liens sur popourichaud.com. Allez, place au professeur Monica Heller.
La discipline de la démo linguistique, son principal champ d'étude, c'était de suivre l'évolution des groupes linguistiques. Et un groupe linguistique se définissait comment? Par la langue maternelle.
Bienvenue à Quoi de neuf?
J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Pierre Corbeil. Moi, je m'appelle Monica Heller, je suis membre du CREFOT. Jean-Pierre, c'est un collègue avec qui je discute depuis très longtemps sur des questions de comment on mesure la vitalité linguistique et les changements linguistiques au Canada. Il a été directeur adjoint à la division de la diversité et de la statistique socio-culturelle de Statistique Canada. Il y a également dirigé le Centre de la statistique ethnoculturelle, langue et immigration. Et M. Corbet a notamment été responsable du programme de la statistique linguistique de Statistique Canada et du contenu linguistique du recensement canadien. C'est avec ce chapeau-là que je l'ai croisé la plupart du temps. M. Corbet travaille dans le domaine de la démolinguistique et étudie la situation linguistique au Canada depuis près de 25 ans, période durant laquelle il a publié plus d'une cinquantaine d'articles, de rapports et d'autres documents analytiques sur le sujet, en plus de compter à son actif plus d'une centaine de communications scientifiques dans divers colloques et forums. Remarquons un de ses articles plus récents, publié l'année dernière dans la revue Université Urbaine, et intitulé « Catégories et frontières, le recensement et la construction sociale, politique et scientifique des groupes ethnolinguistiques au Canada ». Ce sera d'ailleurs le thème central de la conversation. M. Corbet est actuellement professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval à Québec. Il est membre du comité scientifique de l'Organisation internationale de la francophonie, dont le siège social est à Paris. Il est chargé de cours en démolinguistique et études des dynamiques linguistiques à l'Université de Montréal. Outre l'étude des dynamiques linguistiques, ses champs d'intérêt comprennent notamment l'immigration, le pluralisme interculturel, ainsi que les catégorisations et les représentations sociales en matière de rapports intergroupes et interlinguistiques. Alors Jean-Pierre, il est bien connu que le recensement du Canada comprend plus de questions sur les langues que n'importe quel autre recensement à travers le monde. En même temps, ces questions ont beaucoup évolué depuis leur introduction en 1901. Pourrais-tu nous expliquer un peu pourquoi ce thème a autant d'importance au sein du recensement canadien depuis si longtemps?
D'abord, bonjour Monica. Je pense que la présence des questions ou la présence d'un si grand nombre de questions sur la langue dans le recensement, d'une certaine façon, ça témoigne du fait que la langue, sous différents aspects, est un indicateur de la nationalité à tout le monde au moment de son insertion dans le recensement est définitivement un important symbole identitaire. Faut bien comprendre que au moment de l'introduction de ces questions-là, donc en fait c'était le premier recensement en 1901 après la Confédération. Donc il y a eu un premier recensement en 1871, donc suivant l'adoption de la Confédération canadienne, mais on ne posait aucune question sur la langue, même si à cette époque-là 61% de la population du pays était d'origine originaire des îles britanniques et environ 31% était d'origine française. Et malgré cette situation-là, le français et l'anglais n'étaient pas considérés comme les langues officielles du pays. Essentiellement, on ne posait pas de questions sur la langue parce que on s'intéressait essentiellement à l'origine ethnique. Donc, la dimension linguistique n'était pas nécessairement considérée. Or, la première fois qu'on a posé cette question-là, l'objectif était un peu de dénombrer les Canadiens français au pays. Après différentes tentatives, il y a eu des succès et des échecs. Mais malgré cela, on considérait souvent que les questions linguistiques n'arrivaient pas dans le fond, à fournir un portrait adéquat de la population de langue française ou disons d'origine française au pays. Donc, pendant près de 40 ans, donc jusqu'au recensement de 1961, on n'a à peu près pas considéré ou examiné les questions d'ordre linguistique.
Je te posais une question là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'à l'origine, disons 1861, donc quoi, 4 ans après la Confédération, on supposait que si on savait c'était quoi l'origine, on pouvait supposer c'était quoi la langue, ou est-ce que c'était juste que la question de la langue, c'était pas du tout ça que les gens trouvaient important?
En fait, faut bien comprendre que le recensement canadien n'évoluait pas en silo. C'est-à-dire que l'influence qu'a vécu le recensement canadien provenait beaucoup, par exemple, de l'Angleterre ou des États-Unis. Et il y avait aussi, à la fin du 19e siècle, un peu le développement d'une science du langage. Et on commençait à cette époque-là, vers la fin du 19e siècle, à considérer la langue comme un symbole identitaire, mais un marqueur de la nationalité. Donc, c'était essentiellement, on disait, écoutez, on ne pose pas encore de questions parce que à l'époque, faut bien comprendre qu'à la fin du 19e siècle, on ne parlait pas de groupe linguistique, mais on parlait de race. On parlait de race francophone, de race anglophone, et c'était de cette façon-là qu'on... On parlait de culture d'une certaine façon, mais c'était la dimension ethnique, voire même raciale, qui était prise en considération. D'où, par exemple, les directives qui étaient données aux agents recenseurs lors du premier recensement, où on demandait aux gens d'indiquer directement leur langue maternelle. Et la langue maternelle était, et je cite la consigne aux agents recenseurs, la langue maternelle est la langue de sa race. Donc, pas nécessairement la langue dans laquelle on est le plus à l'aise pour communiquer ou qu'on maîtrise de mieux, mais bien associée à une dimension culturelle, raciale, ethnique. Et progressivement, évidemment, étant donné l'arrivée de beaucoup d'immigrants au pays, il y avait une préoccupation de... il fallait s'assurer que les immigrants soient en mesure de maîtriser à tout le moins l'anglais et presque de façon accessoire le français. Et même pour ce qui est des Canadiens français, on se disait, écoutez, le marché du travail, le marché de l'emploi, la finance, etc., tout se passe en anglais, donc il fallait s'assurer que les Canadiens français soient en mesure de maîtriser l'anglais, d'où la raison pour laquelle on pose une question sur cette personne peut-elle parler le français, peut-elle parler l'anglais. Donc, c'était un peu une des raisons qui avait motivé à l'origine, si on peut dire, l'instauration de ces questions-là dans le recensement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que au fur et à mesure que disons que le 20e siècle se développait et évoluait, il y a eu des facteurs qui ont fait en sorte qu'il y a certains chercheurs qui ont commencé à s'intéresser aux questions linguistiques, mais c'est surtout les débats et les considérations politiques qui ont progressivement amené une focalisation ou un déplacement de l'accent de l'origine ethnique vers la langue. Et tout ça s'est passé durant les années 60. Je ne sais pas si tu veux que je commence à développer cet élément-là, mais clairement, il faut bien comprendre, je mentionnais tout à l'heure que c'est quand même assez fascinant de réaliser que la Confédération canadienne qui a été adoptée en 1867, il faut compter 100 ans, donc un siècle, avant qu'il y ait une loi sur les langues officielles au Canada, ce qui est quand même assez fascinant comme situation. Et évidemment, la focalisation vers les questions linguistiques, tout ça a découlé, entre autres, de grandes commissions, dont celle de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, appelée la Commission Laurando-Dunton. Et ça a été aussi le tremplin pour la création d'une discipline scientifique qui s'appelle la démo-linguistique. Par les demandes de la commission Laurando-Dunton, il y a eu une mobilisation de chercheurs et d'utilisation des données du recensement et de façon intéressante sur l'origine ethnique en 1961 pour, en fait, présenter les enjeux auxquels étaient confrontés les francophones au pays.
Donc, 1901, on a l'introduction de la première question.
On avait trois questions, c'est-à-dire la langue maternelle et la connaissance du français et de l'anglais.
Et ce sont ces trois questions qui demeurent comme les trois questions
jusqu'en fait au moment où la commission Laurando-Dunton dit, écoutez, la question sur la langue maternelle, c'est une information qui est en retard d'une génération dans la mesure où on a la langue à l'origine, donc la première langue apprise, mais on n'a aucune information sur la langue qui est communément parlée au moment où on tient un recensement. Et une des suggestions des commissaires de la commission Laurando-Dunton était de dire il faudrait poser une question dans le prochain recensement sur la langue principale des Canadiens. Et là, vous pouvez vous imaginer l'enjeu. Qu'est-ce que c'est la langue principale? À la maison, au travail? Et donc, c'est là qu'il y a eu cette apparition en 1971 pour la première fois d'une question sur la langue parlée le plus souvent à la maison.
Donc, dans un sens, il y a l'explication que ce que dans ma terminologie, moi, je dirais que la langue est un élément structurant de la société canadienne à un point ou d'une manière qui n'existe pas forcément ailleurs. Aussi, je voulais revenir à la question de tu disais tantôt qu'il fallait trouver une formulation pour la langue principale et on est tombé sur langue parlée à la maison. Bon, toi et moi, on a eu de longues discussions par le passé sur pourquoi ça, parce qu'il me semble qu'il y a une idéologie, il y a peut-être des échos du 19e siècle, du lien entre la langue et la race, de la reproduction biologique de la nation qui fait que la maison devient le point central. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait d'autres explications parce qu'on pourrait demander, c'est quand vous sortez de la maison, justement, quelle langue vous parlez dans la rue ou dans les magasins ou au travail, il y a plein de domaines.
C'est une excellente question. Ce qu'il faut bien comprendre, tout à l'heure, je parlais du fait que, en particulier, la commission Laurando-Dunton avait été vraiment un tremplin pour le développement d'un nouveau champ disciplinaire, un nouveau champ scientifique qui s'appelait la démolinguistique. Or, donc, il y a eu aussi une quantité vraiment importante d'étudiants, par exemple, au cycle supérieur, qui ont soumis des mémoires lors de cette commission-là. Et on a bien compris que la démographie et la démolinguistique avaient adopté une perspective suivant laquelle si on avait à décider une question sur la langue parlée actuellement, il faudrait adopter la langue parlée le plus souvent à la maison parce que c'est d'ordinaire celle qui sera transmise aux enfants, celle qui sera transmise aux générations suivantes. Et donc, c'était dans une optique de la langue parlée le plus souvent sera un indicateur de l'évolution future de la population, puisque on transmettra la langue parlée le plus souvent comme langue maternelle aux enfants, et qui, eux, par la suite, pourront transmettre. Donc, c'était un peu cette vision-là qui était très démographique et démolinguistique. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans la loi de 1969, il y avait une dimension selon laquelle, en fait, il y avait une volonté de créer des districts bilingues au Canada. Et comment on allait procéder pour créer ces districts bilingues, évidemment qui référaient à la prestation de services de la part du gouvernement, on s'est dit, on va adopter la question qu'on a dans le recensement, puisqu'on n'était pas encore en 1971. Il faut bien comprendre que la loi sur les langues officielles a été adoptée en 1969. Et donc, la seule question que les gens considéraient comme acceptable pour définir les populations linguistiques ou les groupes linguistiques, c'était la langue maternelle.
Bon, merci beaucoup. Je serais très intéressée à voir comment ce panel-là, ce colloque-là va être reçu, comment les gens vont réagir, parce que je pense que ça ouvre justement un débat, un débat auquel on assiste dans un sens depuis très longtemps, mais on a pu fonctionner comme si on pouvait mettre un peu la complexité sous le tapis, et on est peut-être rendu à un moment où on peut se permettre de faire ça.
Oui, et tout à fait. Puis peut-être le dernier mot, je dirais que un des grands défis auxquels on est confronté, c'est qu'on essaie souvent, quand je dis on, ça exclut les personnes qui parlent, on essaie souvent de répondre à des questions et des enjeux complexes en fournissant des réponses simples. Et c'est un grand danger parce qu'on dit, écoutez, c'est trop compliqué. Je pense qu'il y a nécessairement un besoin sans cesse grandissant de prendre en compte cette cette complexité croissante dans le fond, du portrait de la population canadienne et québécoise, mais aussi de la population francophone à l'extérieur du Québec en particulier.
Merci. Évidemment, en tant qu'anthropologue, j'adore entendre ça parce que c'est notre métier de dire « ben, c'est compliqué ». Et donc apprendre ça comme ben oui, c'est compliqué et c'est pas une manière d'éviter une réponse, mais qu'il faut vraiment faire face à ce que ça veut dire, cette complexité là. Jean-Pierre Corbeil, merci infiniment et ça sera intéressant aussi de voir ce que nos auditeurs, comment nos auditeurs et nos auditrices vont réagir, et j'espère qu'on va pouvoir continuer la conversation.
Absolument, ce fut un plaisir, un grand merci à toi, Monica.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise@utoronto.ca.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adrabène la posa, ding-dong.
Non, ding-dong.
Écoutez la planète chanter.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Et oui, le moment tant attendu de la part de tant de fans au Canada et au Québec a bientôt une réalité. Stromae, de retour au Québec à l'automne 2022. Depuis le lancement de son troisième album Multitude au mois de mars, l'artiste belge d'un père tué lors du génocide de Rwanda présentera deux spectacles au Centre Bell de Montréal les 25 et 26 novembre et le 11 décembre au Centre Vidéotron Montréal. Tirage sort de deux paires de billets de concert et billets de train via rail et hôtel pour les gagnants. Allez, inscrivez-vous à nos infolettres et courez la chance de gagner des billets des prochains concerts de Stromae. Et afin de rester à l'affût et ne rien manquer des nouvelles annonces de nos partenaires, programmations, festivals, des nouveaux concours exclusifs, inscrivez-vous immédiatement à notre infolettre popourri@cut.fm. Stromae, meilleur artiste belge de la planète, gagnant de plusieurs prix. Et il est passé chez nous à plusieurs reprises. Et nous revient après un long silence. Allez, participez en grand nombre. Concours Stromae. Bonne chance.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Une première à Toronto, Ménage à trois, un spectacle de drag queen hilarant, du jamais vu. Eh oui, avec DJ sophistiqué, looks flamboyants, écran géant, chorégraphie bien rodée, rythme pop endiablé, avec trois drag queens une fois par mois au Drink Cocktail and Pizza Bar sur la rue Church. Inscrivez-vous à notre infolettre à popourri@cut.fm et courez la chance de gagner un coupon cadeau de 25$ gracieuseté de Drink Cocktail and Pizza Bar sur la rue Church au sud de la rue Maitland. Un endroit caché, oui, au deuxième étage là, de la rue Church, au cœur du village gay. Ménage à trois, trois drag queens, une soirée en français, une fois par mois, une première à Toronto. Retrouvez les dates des prochains spectacles sur popourishow.com. CUT 89,5 FM et Popourishow, 35 ans de fierté.
Découvrez Radio Player France. Radio Player, c'est une nouvelle façon de penser, de consommer et d'aimer la radio. C'est une application qui réunit le meilleur des radios françaises, des web radios et des podcasts. C'est un projet commun réunissant les six principaux groupes de radios françaises. Altis Media, Lagardère News, les Indé Radio, les radios du groupe M6, Énergie Group et Radio France. Mais c'est surtout une ouverture pour tous, avec un contenu énorme, complet et entièrement gratuit. Avec des offres localisées et un modèle prédictif basé sur l'écoute des auditeurs. C'est pour tous les usages, partout et à tout moment. C'est sur tous les supports, smartphone, ordinateur, enceintes connectées et assistants vocaux, Smart TV et voitures, avec en plus une qualité de son inégalée. Radio Player France, l'appli de toutes les radios, gratuite et accessible à tous.
RFI, la radio mondiale.
Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale, et il y a ce que vous écoutez ailleurs, mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
À l'occasion de ses 35 ans, CUT 89,5 FM sera à 40 degrés à Londres cet été. Évadez-vous avec notre édition spéciale en partenariat avec de nombreux partenaires du monde associatif, littéraire et du monde culturel. De la musique, de la poésie, les podcasts du Crefo, de l'humour et des invités surprises. En cette période estivale, Popourishow vous accompagne. À la ville ou à la campagne, ou même à la plage, du 3 juillet au 28 août, sur CUT 89,5 FM, la radio de votre été, sur www.cut.fm. Les buzz de nos médias partenaires. À l'approche de la rentrée littéraire, la crainte d'une rupture de stock du papier inquiète les imprimeurs. Et oui, depuis le début de la pandémie, le papier se fait rare. Des rouleaux des imprimeurs jusqu'aux étagères des librairies. Prix de la ressource, pénurie de main-d'œuvre et distribution plombe la production. La situation persiste et inquiète. La pénurie de papier qui affecte le monde de l'édition est en partie liée à la hausse des ventes de livres depuis quelques années. À Kiev, de nouvelles lois sur la dérussification divisent libraires et amateurs de livres. Certains prônent des lois nécessaires pour protéger l'Ukraine de la propagande russe. Covid longue, quand la vie bascule, un témoignage émouvant dans le journal Le Nouvelliste de Trois-Rivières. La vie de Marie-Ève Marchildon a complètement basculé le 18 mars dernier lorsqu'elle a contracté la Covid. Marie-Ève peine à remonter la pente, elle à qui on a diagnostiqué une forme sévère de Covid longue. Problèmes respiratoires, essoufflements intenses, perte de mémoire, perte de concentration et surtout une fatigue extrême qui la force à dormir pratiquement 20 heures par jour sans jamais récupérer. Marie-Ève n'est pas seule dans son cas. Des milliers de personnes au Canada ont déjà développé une forme ou l'autre de Covid longue. Soit la persistance d'un ou de plusieurs symptômes au-delà de 3 mois après un test positif de Covid-19. Au Québec, les Québécois sont conviés au rendez-vous électoral à provincial au mois d'octobre. La campagne officielle n'est pas encore lancée, mais les partis politiques laissent entrevoir des éléments de leur programme et énoncent certaines promesses, dont celle d'aider la population à faire face à l'augmentation galopante du coût de la vie. Selon un dernier sondage, les immigrants ressentent durement les effets de la loi sur la laïcité de l'État. Beaucoup d'immigrants ont l'impression de ne plus être des membres à part entière de la société québécoise. Il y a une perte de confiance en l'avenir. Les constats d'une enquête révèlent une série de conséquences négatives. Et enfin, un sujet qui fait débat, trottinette électrique pour la tolérance en attendant la légalité. Elles sont partout à travers le monde, dans bien des villes. Elles sont devenues le moyen de transport alternatif le plus prisé des citoyens. À Paris, Toronto, Montréal, Bruxelles ou San Diego, on en retrouve à chaque coin de rue en libre service, prêt à être emprunté par le prochain passant qui veut se rendre plus rapidement au boulot. Pourtant, à Toronto ou au Québec, les trottinettes électriques sont encore techniquement considérées comme illégales sur les routes et les pistes cyclables. Et ça exaspère de plus en plus les amateurs de ce moyen de transport nouveau genre. Trottinette électrique, un danger pour le public. Et à ne pas rater, vers 12h35, dans la splendeur de la nuit, l'ouvrage inédit de Dany Laferrière, apparu aux éditions Point au mois de mars 2022. Le grand écrivain et professeur Alain Mabankou nous sera au rendez-vous pour nous présenter cette traversée nocturne de Port-au-Prince sous forme de grande odyssée poétique, entièrement dessiné en couleur. Allez, place maintenant au journal d'Haïti et les Amériques. Eh oui, un an après le séisme, les sinistrés se sentent abandonnés. Popourri chaud, édition spéciale, 40 degrés à l'ombre. L'équipe sera de retour le 17 septembre. Passez un excellent été sur CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Casanova pour le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Anne Mignard, il est 9h10 à Port-au-Prince. Ce dimanche, ça fera un an, tout juste, qu'un séisme meurtrier a ravagé le sud-ouest d'Haïti. Un an après, vous l'entendrez, de nombreux sinistrés déplorent un manque d'aide humanitaire et de l'État. La reconstruction aussi avance très lentement. Au programme également, ces révélations du Washington Post qui croit savoir que les documents que le FBI cherchait chez Donald Trump ont un lien avec des armes nucléaires. Et puis comme tous les jours, l'actualité ultramarine. Au programme, Benoît Ferrand, le combat contre l'insécurité en Guyane.
Un combat que l'État et les collectivités locales guyanaises vont tenter de mener ensemble. Des assises seront d'ailleurs organisées dès le mois prochain.
On vous retrouve dans une quinzaine de minutes, Benoît.
L'Écaille, 106.9 FM.
Haïti s'apprête à rendre hommage aux plus de 2200 personnes tuées lors du séisme de magnitude 7,2 dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand'Anse. Cela fera un an, tout juste ce dimanche, un an après. Les familles victimes de la catastrophe n'ont toujours pas retrouvé une vie normale. Les sinistrés se sentent complètement abandonnés par l'État et les organisations humanitaires, comme cet Haïtien qu'Amélie Baron a pu joindre.
Le 14 août dernier, Marcel François a vu sa vie basculer. Pendant plus de 5 heures, lui et sa fille, âgée d'à peine quelques mois, ont été ensevelis sous les décombres de leur maison, totalement détruite par le séisme.
C'est quelque chose qui restera à jamais gravé dans mon esprit. C'est une date inoubliable parce que jusqu'à aujourd'hui, je me considère comme un survivant. Mais ce qui me fait mal, c'est que je constate la faiblesse de l'État. Jusqu'à maintenant, je n'ai bénéficié d'aucune aide. J'ai eu des proches tués, des amis ont perdu aussi des gens. Nous sommes vraiment dans une situation critique.
S'il s'est remis de ses blessures, ce trentenaire qui vit au CAI est dépité du sort qu'est le sien aujourd'hui.
Ça va de mal en pire. Non seulement on n'a pas bénéficié d'assistance, mais il y a tous ces problèmes de gangs sur la route qui nous permettraient de s'approvisionner en nourriture, vu qu'aucune instance ne nous fournit de l'aide. Personne s'est soucié de savoir comment je vivais après que ma maison a été détruite. Aucune démarche n'a été menée pour savoir où je vivais aujourd'hui. Il y a toujours des gens qui vivent dans des abris ou dans la belle étoile à subir la pluie et le soleil. Moi, j'ai eu de la chance d'être en bon terme avec un ébéniste. Il s'était construit un petit atelier pour travailler le soir. C'est la compte d'or avec ma famille, je n'ai pas d'autre solution.
Survivre dans un abri de quelques mètres carrés seulement avec sa femme, sa fille qui va bientôt avoir 2 ans et son frère de 28 ans, Marcel François considère que le reste du pays et surtout les autorités et habitants de Port-au-Prince les ont totalement oubliés.
Sincèrement, c'est comme si rien ne s'était passé au CAI. Ils nous ont abandonnés comme s'ils ignoraient notre existence. C'est comme si la République était divisée en plusieurs morceaux. Ici, manger est devenu un luxe. Et imaginons que j'ai la volonté de reconstruire une maison. Les matériaux sont devenus tellement chers. Je ne peux rien faire. Je n'ai aucun espoir.
Sans logement, sans travail, comme beaucoup de ses compatriotes, Marcel François pense aujourd'hui à l'exil.
Franchement, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'opportunité pour partir que je suis encore dans le pays. En tant que jeune, on nous dit d'aller à l'école, on y va. On nous dit d'aller à la fac, on va à la fac. Et après ça, on ne trouve pas de travail. On a besoin d'une personne élue qui puisse apporter du changement. Mais je ne vois pas comment des élections pourraient être possibles en Haïti.
Et voilà cet Haïtien joint par Amélie Baron. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Marion.
Le séisme a détruit des villages entiers, des écoles et de nombreuses infrastructures. Un an après, où en est la reconstruction? C'est la question qu'on se pose avec vous Stéphanie.
Et comme les bonnes nouvelles se font rares, Marion, je vous en propose une pour commencer. C'était pas plus tard que ce mardi sur les rives de la rivière de la Grand'Anse. Dans cet enregistrement du journaliste Anderson Duvert, on entend le ministre haïtien des Travaux publics, Rosemont Pradel, qui a donc inauguré cette semaine un nouveau pont. Le ministre parle de l'impatience de la population parce que le séisme de l'an dernier a détruit le pont du Marais estimé, qui enjambe le principal cours d'eau du département de la Grand'Anse. Aucune voiture ou camion ne pouvait le traverser, ce qui a coupé le chef-lieu du département, la ville de Jérémy, du reste du pays. Depuis mardi, la circulation des habitants, mais aussi des marchandises, est enfin à nouveau possible.
Et Stéphanie, ce nouveau pont a été financé par la Banque mondiale.
Absolument, et c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans les zones sinistrées par la catastrophe de l'an dernier. Les peu de projets en cours sont pour la plupart menés par la communauté internationale. À Beaumont, par exemple, situé à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Jérémy, les autorités locales espèrent la reconstruction prochaine de plusieurs infrastructures majeures de la ville détruites par le séisme. James Lafortune est le directeur de la mairie de Beaumont.
Pour le moment, on a un projet de reconstruction de l'hôtel de ville de Beaumont et le tribunal de paix. Là, on pourrait loger l'état civil, DGI, tout ça. Mais c'est un projet en cours avec le financement de Expertise France et ambassade de Suisse avec l'appui de Pagode. On a déjà lancé l'appel d'offres pour que certaines firmes viennent déposer leur dossier, mais c'est toujours un projet.
Est-ce que votre mairie a eu des fonds disponibles de l'État pour vous occuper des sinistrés et des problèmes dans votre ville?
Complètement non.
Les mairies ne disposent donc pas d'argent pour venir en aide à leur population. Or, dans un pays où beaucoup de citoyens travaillent dans l'économie informelle, nombreux sont ceux qui ont tout perdu dans la catastrophe. À Aquin, une ville côtière du département du Sud, on ne compte plus les magasins et entreprises qui ne se sont pas relevés.
Malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas ouvrir leurs portes parce qu'il y a des bâtiments qui ont été détruits. Ils n'arrivent pas à reconstruire et ils ont des dettes. Donc, ils ont pu abandonner, quoi.
Ginelle Chérémont est à la tête d'une petite entreprise de transformation de produits agricoles à Aquin. Le séisme a endommagé son atelier, mais depuis un an, c'est un autre problème qui lui fait perdre le sommeil. L'emprise des gangs, notamment autour de Port-au-Prince, mais pas seulement, coupe la péninsule sud et donc les zones sinistrées par le tremblement de terre de la capitale haïtienne et du reste du pays.
Pas trop d'impossibilité pour trouver des matières premières librement. Nous sommes à Aquin. Et il y a certaines choses qu'on peut trouver seulement à Port-au-Prince. Donc là, et ça paralyse nos activités. En fait, comme entrepreneur, nous sommes en train de créer d'autres alternatives pour pouvoir remédier à cette situation.
Qu'est-ce que vous faites?
Comme c'est un atelier de transformation, autrefois, j'achète les matières premières, mais aujourd'hui, je fais la production également, je fais la plantation.
Et donc, à l'insécurité galopante, Stéphanie, s'ajoutent des pénuries de carburant.
Oui, sans parler du fait que la gourde, la monnaie nationale, perd chaque jour un peu plus de sa valeur et que le taux d'inflation dépassera bientôt les 30%. Ces difficultés économiques concernent bien sûr l'ensemble de la population haïtienne, mais dans les trois départements ravagés par le tremblement de terre, elles provoquent des situations insoutenables, dont l'aggravation de l'insécurité alimentaire.
Et c'est notamment le cas dans les sections communales.
Oui, les habitants de ces villages situés dans des zones rurales reculées survivent depuis toujours dans des conditions très précaires. Le tremblement de terre a entièrement rasé de la carte bon nombre de ces hameaux.
Beaucoup d'écoles également ont été détruites ou gravement endommagées.
Oui, l'UNICEF avait estimé que seuls 5% des plus de 2800 écoles que comptent les trois départements touchés étaient sorties indemnes de la catastrophe. Ginelle Chirémont est aussi technicien pour l'ONG franco-haïtienne Haïti Futur, qui équipe plus de 500 écoles en électricité et outils numériques. Après le séisme, aussi bien le gouvernement haïtien que la communauté internationale avaient fait de la reconstruction des écoles une priorité absolue. Mais sur le terrain, les résultats concrets se font toujours attendre.
Là, nous sommes un an après. Il faut qu'on fasse beaucoup de choses pour reconstruire les écoles. Il y a des écoles, malgré tout, qui ont travaillé sous les tentes. Mais une école reconstruite, non, il n'y en a pas.
Et puis, se pose une question, combien d'élèves ne sont pas du tout retournés en classe après le séisme, ne serait-ce que sous les tentes? Il n'existe pas de statistiques officielles, mais sachez que plus de 8 écoles sur 10 en Haïti sont privées et donc payantes.
Là, il y a un problème de transport, il y a un problème d'insécurité et tout augmente. La hausse des prix des produits de première nécessité pose problème et ça touche les parents parce qu'il faut qu'ils vendent des produits pour pouvoir payer l'école.
Alors que peuvent faire aujourd'hui les ONG sur place, Stéphanie?
Eh bien, il est évident, Marion, que l'effondrement des institutions haïtiennes, l'insécurité, l'inflation, la pénurie de carburant, pèsent également sur l'action des organisations non gouvernementales. De plus, elles manquent de moyens. Haïti n'est pas le seul pays en crise, comme vous le savez, et les donateurs se font plus rares qu'auparavant. Tous ces facteurs limitent la marge de manœuvre des ONG, explique Rosa Paris-Canella, directrice de programme d'ASB. Après le séisme d'août dernier, cette ONG allemande avait fourni de l'eau potable à 140 000 personnes dans les départements sinistrés grâce à 5 filtres mobiles. Mais les interventions d'urgence menées par l'ASB et les autres ONG ont pris fin depuis des mois.
Les ONG marchent à leur rythme comme elles peuvent. Mais les ONG ne peuvent pas remplacer l'État. C'est une réalité qu'on ne peut pas cacher.
Ça veut dire que face à toutes ces difficultés, en fait, le sort des sinistrés du séisme d'il y a un an n'est plus une priorité?
Bon, c'est une priorité, mais comment le faire? C'est-à-dire, tout est une priorité en ce moment. Apaiser le pays est une priorité. C'est-à-dire, nous sommes dans une action humanitaire. Continue avec une famine énorme, avec des déplacés internes énormes. La population n'en peut plus.
Alors, pour finir, Marion, si vous voulez bien, j'aimerais bien que l'on retourne un instant à Beaumont, dans le département de la Grand'Anse. Le directeur de la mairie, James Lafortune, appelle la communauté internationale à investir maintenant dans de véritables projets de développement.
Il y a beaucoup de gens qui sont toujours en phase de situation d'urgence, mais les urgences sont passées. Maintenant, il doit y avoir des choses plus concrètes. On est une commune agricole. C'est d'aider ces gens-là pour qu'ils aient un meilleur rendement de leurs produits, un appui économique pour qu'ils puissent cultiver la terre et des projets de transformation de leurs produits. Et là, ils pourront se relever tout seuls avec l'agriculture.
Voilà, merci Stéphanie Schuller pour ce dossier. On retient donc que la reconstruction avance très lentement en Haïti. Restons d'ailleurs en Haïti pour la revue de presse. Christophe Paget nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Et la presse haïtienne s'intéresse à une interview accordée au Miami Herald par Luis Almagro, le chef de l'OEA, l'Organisation des États américains.
Luis Almagro, favorable au retour des casques bleus et une nouvelle constitution en Haïti, titre le Nouvelliste. Raison invoquée par le diplomate, la situation d'insécurité, la crise économique et le dysfonctionnement des institutions. Lundi, dans un communiqué, l'OEA avait admis sa culpabilité dans la destruction d'Haïti, titre Alter Press, reprenant le quotidien The Nation. Mais la tragédie est telle, estime le journal américain, qu'étant donné l'état dans lequel la communauté internationale a laissé le pays, la République d'Haïti ne peut tout simplement pas résoudre seul ses problèmes. Ce qui nous ramène à cette éventuelle intervention des casques bleus défendue par le chef de l'OEA qui parle d'une ligne d'action à envisager très sérieusement. Nous sommes ouverts à d'autres propositions, précise-t-il, tout en estimant que pour arriver vite et avec la logistique appropriée, le moins difficile c'est de passer par des procédures et des mécanismes bien appropriés, des procédures et des mécanismes établis qui existent déjà avec les missions de maintien de la paix. À la lecture de cette interview, le Nouvelliste s'interroge. Quel est l'intérêt du dossier d'Haïti pour Luis Almagro au point de lancer cette campagne médiatique? Parviendra-t-il à convaincre une majorité de pays lors du prochain conseil permanent de l'OEA sur ce dossier? Quelle sera la position du gouvernement d'Ariel Henry?
Le journal de l'Outre-mer.
Et à la une en Guyane, État et élus locaux main dans la main pour lutter contre l'insécurité. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Marion, ils étaient tous là, ou presque, hier après-midi, le préfet Thierry Kefelec, le président de la collectivité territoriale Gabriel Serville, des représentants des trois municipalités de Kourou, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, tous se sont mis d'accord pour organiser des assises sur le sujet en septembre. En attendant, l'État doit mieux assumer ses missions régaliennes. C'est en tout cas l'avis du président de la CTG, Gabriel Serville.
Nous savons également qu'il y a un certain nombre de dispositifs au niveau national que nous pouvons mobiliser pour pouvoir mieux accompagner le développement du territoire parce que je considère encore une fois que l'insécurité, c'est souvent une conséquence sur d'autres paramètres sur lesquels on n'a pas été bon, on n'a pas été parfait. Donc il s'agira de faire un travail en amont, bien évidemment, pour éviter que les problèmes ne surviennent. Mais il faudra aussi que lorsque les problèmes surviennent, lorsqu'il y a de la délinquance comme celle que l'on voit aujourd'hui, eh bien que le niveau national, que le pénal puisse entrer en action et que les sanctions soient appliquées de la manière la plus sévère qui soit.
Gabriel Serville, président de la collectivité de Guyane, au micro de Patrick Clark. Sachez également que lors de cette réunion, le préfet Thierry Kefelec a annoncé que le renforcement des contrôles de passagers à l'aéroport de Cayenne avait permis d'empêcher sur les 6 premiers mois de l'année le transit d'une tonne de cocaïne vers l'Hexagone. Direction la Guadeloupe, qui accueille en ce moment un très célèbre enfant du pays, le judoka Teddy Riner, venu préparer sur son île natale les championnats du monde et surtout les JO de 2024 à Paris.
Le stage était 15 jours, là ça touche à sa fin, il reste 3-4 jours. C'était la reprise avant les championnats du monde, gros bloc de préparation physique et ensuite là on va enchaîner pendant un mois quand même, différents pays où là ça va être axé judo. C'est ici que j'ai mes racines, mes parents, ma famille. Quand je peux, je viens me reposer. Quand je peux, je viens me sentir chez moi. Ça me fait du bien, ça fait du bien à ma famille. Et puis maintenant qu'on a trouvé aussi ce moyen de venir faire les préparations physiques ici, c'est plutôt cool aussi. Quand je regarde mon palmarès ou bien là où j'en suis, j'ai pas de pression à avoir. C'est les autres qui ont plus de pression. Hein. Moi, c'est que du bonus. Mon objectif, il est clair. C'est les Jeux 2024. Je vais m'entraîner dur. Après, il y a ce championnat du monde qui se présente. Je vais y aller. Ça va me permettre de, 1, aller chercher la concurrence. 2, aller chercher des points. Et 3, savoir où j'en suis en vue des Jeux Olympiques de 2024. Quand je vois comment je m'entraîne, comment je progresse actuellement, il n'est pas impossible que je continue après 2024. Je suis jeune. J'ai des gens qui pensent à mon après-carrière, même si je surveille. Pourquoi pas continuer, prendre du plaisir sur ces tapis, tant qu'il y en a. Vive sans regret.
Vivre sans regret, signé Teddy Riner. Bon après-midi Marion, bon week-end, à lundi.
Et merci Benoît Ferrand, à lundi. C'est ainsi que s'achève le journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Raphaël Belon qui était à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve lundi donc à la même heure, 13h10, temps universel.
Les trophées Énergie Antilles. Votez pour la révélation de l'année. De Psy et Les Wheels. Bigesti.
Je ne peux pas me détacher.
veillez.
Mais à calé de la matin, de taille posée si fait comme moi.
Rio. Rendez-vous sur energieanti.com.
Le mois du créole de Montréal, organisme partenaire de Popourri Show, vous convie à la 21e édition du mois du créole en octobre. Participez, faites-vous connaître, inscrivez votre activité culturelle dans le programme officiel du mois du créole en visitant moisducreole.info. Tout au long du mois d'octobre, Popourri Show CUTFM, en partenariat avec le Mois du Créole à Montréal, célèbre le patrimoine culturel créole. Pour nous joindre, popourri@cut.fm ou visitez moisducreole.info. Popourri Show, 35 ans, fier partenaire des festivités du Mois du Créole au Canada. Allez, bonjour tout le monde. Et oui, le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation KEPKA en créole vous donne rendez-vous à sa 21e édition du mois du créole. Et la porte-parole cette année, Rebecca Jean, autrice, compositrice, interprète et réalisatrice. Rebecca Jean est née au Québec de parents haïtiens. Elle se définit comme une haïbécoise, une toute nouvelle expression pour moi. Elle sera des nôtres au mois de septembre et chaque dimanche, je vous ferai découvrir une de ses chansons, de vraies perles, vous verrez. Retrouvez tous les liens de ses clips et son parcours artistique. Rebecca Jean, la porte-parole du Mois du Créole Montréal, édition 2022, en visitant son site web rebeccajean.ca. Et si vous souhaitez parrainer une de nos émissions dans le cadre du Mois du Créole, écrivez-nous immédiatement popourri@cut.fm. En attendant son passage à l'antenne, voici une chanson de Rebecca Jean, Laquée. Mois d'octobre, c'est le Mois du Créole sur CUT 89,5 FM. Soyez-y.
Sentis-nous là.
jambier, racinons ta honne.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Ciné Franco, 25 ans, et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourichaud.com, 25 ans, ça se fête.
C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation.
De Clara, qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain.
Ou encore de Nathalie, qui a oublié les brassards et les couches bébé nageurs de son fils.
Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind.
Top Sec Équipement propose un concept exclusif. Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité, à prix très attractif. Disponible dans toutes les piscines de France.
Youhou ! Info sur la page Facebook Top Sec Équipement.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donne envie de déguster les histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
En 2022, Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale.
2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises.
Patineur qui va les accompagner, c'est Dominique Deniaux et Martial Jaffredo, qui patinent ensemble depuis 8 ans. Ils sont en équipe de France de danse. Ils ont été 5e du championnat de France junior. Ils sont très célèbres. Ils appartiennent à cette célèbre patinoire de Colombes. Et ce sont des fans, bien sûr, de l'ami Candeloro, qui était avec nous il y a quelques instants. On est prêts. Les choristes sont prêts. La petite Costa est prête. Un petit peu angoissée. Daniel Lévy, lui, l'habitude. Quant aux jeunes danseurs que vous voyez, eh bien, on reparlera peut-être d'eux dans 4 ans au Japon. Pourquoi pas. Aladdin.
C'était Daniel Lévy chez Michel Drucker dans Star 90 en 1992. Cela ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Eh oui, une façon de rendre hommage à ce chanteur tant apprécié, surtout en Europe. Daniel Lévy est mort à l'âge de 60 ans, samedi 6 août, des suites d'un cancer du côlon.
Il a joué dans plusieurs grandes comédies musicales. Et maintenant, place à TV5 Monde, qui recevait au début du mois l'écrivain et académicien Dany Laferrière lors du lancement de son livre « Dans la splendeur de la nuit », un ouvrage inédit. L'écrivain et professeur Alain Mabankou, directeur de la collection Point Poésie, nous présente cette traversée nocturne de Port-au-Prince sous forme de grande odyssée poétique entièrement dessinée en couleur. Et juste après, quelques extraits de l'entretien avec Patrick Simonin, TV5 Monde.
Dans la splendeur de la nuit, c'est le grand livre de Dany Laferrière. Je le connais depuis des années. C'est un grand frère intellectuel, c'est un grand frère en littérature. Et lorsque j'ai reçu le manuscrit de ce livre, j'étais subjugué par la force de l'originalité. C'est un livre dessiné déjà, donc il y a eu un éblouissement des couleurs. On rentre dans une certaine nuit, le titre même dans la splendeur de la nuit peut vous tromper. En réalité, nous sommes dans la splendeur des couleurs. La nuit est à rechercher dans cette saveur de la ville de Port-au-Prince en Haïti, mais aussi à travers la recherche de la poésie de l'Hippo, du côté de l'Asie, du côté de l'expérimentation de l'écriture. Ce qui se retrouve dans ce livre, c'est peut-être ce que nous recherchons nous-mêmes. Cette sorte de parfum d'enfance que nous avons perdu, cette sorte d'élégance même, peut-être, de la vie qui se retrouve à l'intérieur, la pointe de l'écriture, le dessin peut-être raturé, l'amour peut-être perdu dans ce sens, mais aussi, qu'est-ce qu'un poème ? Il ne se rend pas compte à l'intérieur que c'est son enfance qui est en train d'écrire le grand poème de Dany Laferrière. Dans la splendeur de la nuit, ça j'en suis sûr, restera pour Dany Laferrière un des livres fondamentaux dans son œuvre, et nous sommes très très heureux de publier cet ouvrage.
Dany Laferrière de l'Académie française qui nous enchante. Dany, si on pouvait voir tout ce qui vous accompagne dans la nuit, on prendrait peur et on resterait bouche bée devant une telle splendeur. C'est vous qui écrivez ces mots dans ce magnifique ouvrage, dans la splendeur de la nuit, dans une collection dirigée par Alain Mabankou qui vient d'arriver. On ne peut pas le définir comme toujours. C'est un livre où les mots et les dessins s'échangent. La vie rentre, la vie pénètre comme ça et vous envoûte.
Et la nuit est là. Et la nuit, c'est une grande partie de notre vie. Et je me souviens, j'ai vécu longtemps en sevrage de la nuit quand je suis arrivé et à Montréal, où la nuit, j'avais plus eu la même nuit modeste et puissante, en splendeur, invisible. Et c'était plutôt une nuit de café, une nuit de néon, magnifique aussi. Mais les étoiles avaient disparu. Et donc j'ai voulu faire un éloge de cette nuit, et sans café, sans néon, mais la nuit, tout simplement, dans sa présence nue. Puissante.
Oui. On voit un grand duc, un hibou, qui voit la nuit, qui dit, un poète dit, les aveugles font l'amour à midi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure, la nuit.
Oui, il n'y a pas d'heure. Et alors, cette histoire, c'est un jeune homme de 17 ans qui n'a jamais écrit un seul vers, mais qui se dit poète. Il se dit poète parce qu'il a hérité de son père disparu un recueil de poèmes d'un poète chinois, Lipo. Et il n'y a qu'un seul poème et qu'il a gardé, qui était le poème préféré de son père. Et il entreprend, il se dit poète pour cela, parce qu'il aime la poésie. On peut être poète parce qu'on aime la poésie. Parce qu'il y a un rapport tellement de fluide qui s'échange entre eux. Et la poésie du poète au lecteur, que la participation est si intense qu'on ne sait plus qui est le poète. On peut lire des romans, on peut se distraire à cela, mais la poésie exige une telle présence, une telle intensité dans la lecture, et qu'on est vraiment participant à cette action poétique.
Oui.
Et ce jeune homme entreprend, et durant l'absence de sa mère, de traverser Port-au-Prince la nuit. Une nuit noire, une nuit et presque sans étoiles, et une nuit aussi et où il n'y a pas de lampadaire, où il n'y a que les sons, la musique des insectes, enfin, tous ces animaux, toute cette qu'il ne voit pas, mais dont il entend la musique, dont il sent la présence.
Oui, et le clair de lune éclaire devant mon lit, dit Lippo.
Ah oui, Lippo, c'est exactement ça. Quand j'ai lu ce poète, j'ai été tellement touché par sa vision de la nuit, de la lune, et de cette beauté faite uniquement de choses toutes minuscules, toutes modestes. Et c'est quand même un être humain qui marche sous une constellation. Et on fait partie de cette constellation, et comme on ne voit pas les autres humains, on est le seul narrateur de la nuit quand on sort la nuit. Mais on imagine, alors tout devient cire. Il voit un homme en train de fumer de loin qui s'allume une cigarette, mais il se dit, on ne peut pas allumer aussi longuement une cigarette, ça doit être un code, parce qu'il y a tant de codes la nuit. Et qui est-il? Est-ce un cobra? Et est-ce que ce sont des chiens jaunes? Il se demande, parce que tout se transforme durant la nuit.
Oui, je veux tout apprendre de la nuit, comme le hibou.
Oui, absolument.
Là, on peut tout apprendre de la nuit.
Oui, d'ailleurs j'ai mis en exergue ce vers de René Maria Rilke, « J'aime la nuit ». Et avec une certaine tristesse, et aussi c'est un éloge à ma sœur, qui n'a pas bien connu la nuit, puisque les filles en Haïti n'avaient pas le droit de sortir le soir. Vous savez, c'est une chose très étrange, notre rapport, nous les humains, avec la nuit. On se barricade quand elle arrive, dans toutes les villes. Et on s'enferme, et sous prétexte de dormir, alors qu'on peut dormir n'importe quand. On n'est pas obligé d'avoir la nuit pour dormir, mais on a trouvé que c'était le moment où il fallait pas être dehors. On a choisi cela. Je me demande, quand est-ce qu'on a fait ce choix? Et sans notre mot, c'est-à-dire de dire à partir de 11h, de 10h du soir, de 9h selon, on s'enferme et au soleil, on se lève, on sort, on ouvre les fenêtres. Et on a perdu toute la magie du monde. Les poètes, les musiciens connaissent ça. Et c'est pour cela, les peintres aussi. Et c'est pour ça qu'on a coupé les femmes de la nuit. Et qui est la magie donnée. Quand on va dans un café la nuit, on discute d'une manière différente. On dépose les armes, si l'on peut dire. Même les gens armés en Haïti, les tontons Macoutes, je me souviens, la nuit, ils étaient différents. Ils pouvaient s'épancher. Et c'est là qu'on apprenait, par exemple, que le gouvernement n'était pas si puissant que ça, qu'il y avait des failles, que certains avaient fait des maladresses, et qu'on pouvait, disons, changer les choses, changer la vie. Et quand je rentrais le matin ou à l'aube, pas le matin, à l'aube, et que je voyais que ma sœur couchait, je me disais, mais je comprends pourquoi elle n'a pas cette exaltation dans sa vie ordinaire, quotidienne, qui pourrait la pousser à créer, parce qu'elle a pas ce moment-là, cette pause.
Oui, qui est absolument nécessaire, et qui amène, évidemment, l'émerveillement de la vie, y compris pour l'écrivain, qui s'interroge sur la célébrité. Qu'est-ce qu'est le monde, finalement? Les animaux, les serpents, le tourbillon.
Tout sort, tout file, on entend un bruit, on se tourne, et c'est un serpent ou un anoli qui court sous l'herbe sèche. On entend des cris, on se retourne, on ne voit rien, et alors qu'ils nous voient tous. Ils ont là des petits yeux parfois qu'on voit et dans les fourrés, mais c'est extraordinaire, on dirait et que on fait partie de cette splendeur. On est un animal, tout simplement, aussi. On nous regarde, on nous observe. J'ai pris le hibou comme le narrateur, puisque c'est l'animal le plus poétique, c'est le maître de la nuit. Et je l'ai pris parce que je me suis dit, et parce que ma mère m'avait déjà comparé à un hibou, puisque je peux voir dans la nuit, disons aspirante, cette poésie verticale qui monte vers le haut comme ça, qui nous sauvera de ce localisme, de ce nationalisme culturel, de tout ce qui fait barrière, de toutes les frontières, de tout ce qui empêche de voir le monde.
Oui, il y a quelque chose effectivement d'universel dans ces coups de crayon de couleurs comme ça, ces couleurs universelles.
Mais
elles sont belles.
Oui, c'est ça. Et par exemple là, on a l'hippo qui le chiffre 5, on voit sur lui le chiffre 5, l'hypo. Et bien, c'est magique. Et les chiffres, imagine. Et pourquoi ce 5? Moi, je ne sais pas. Je l'ai écrit comme ça. Et je l'ai écrit aussi en pensant à un poète haïtien, Magloire Saint-Aude, qui avait écrit nous sommes 5, ou nous sommes pour 5. J'ai jamais compris pourquoi il a mis 5 et non 6. Alors, j'ai voulu un peu récupérer sa fulgurance. C'est-à-dire, le chiffre 5, ça peut être 8. Les chiffres, les lettres, sont des codes secrets qui permettent de décrypter le monde, mais mieux que ça, de le sublimer.
Oui. Quand Alain Bancou, qui dirige cette magnifique collection, écrit que la poésie, votre poésie, Dany, exalte le goût du voyage et pénètre les mystères de la nuit tropicale, on voit qu'on est dans un univers qui est, je le dis, absolument universel. Il n'y a pas besoin d'être allé dans cette nuit tropicale. Elle est la nôtre. Elle est celle de tous les êtres humains sur Terre.
Ben oui, c'est Sandra à qui on reprochait de n'avoir pas pris le transsibérien et qui répondait « J'ai fait mieux, je vous l'ai fait prendre. » Alors, la nuit est à vous.
Oui, il faut la regarder la nuit, en face. Pas avoir peur.
Marcher dans la nuit.
Oui. La nuit est une amie.
Ah oui, et c'est aussi un art de vivre. Et il faut sortir parfumé dans la nuit. Et même si on ne vous voit pas dans cette nuit, n'oubliez pas qu'il y a des ombres qui bougent tout autour. Une nuit à Petit Gouave, et j'avais laissé la ville depuis longtemps, je m'étais habitué aux néons et aux lumières qui cachent les étoiles, et je suis retourné à Petit Gouave, je parlais à un ami, pensant qu'on était seul dans la nuit, et j'ai vu les ombres qui grouillaient autour, mais la ville était là, dans sa vie nocturne. Et c'est pas fait pour les noctambules seulement. C'est quelque chose qui paraît étrange, alors que c'est une chose aussi simple. Et qu'avons-nous fait de notre vie nocturne?
Oui. Retrouver le goût du grand-duc. C'est un beau mot, grand-duc, pour parler d'un hibou.
Oui.
Le grand-duc.
Grand-duc d'Amérique.
Grande noblesse. Il voit tout. Il voit tout.
Il voit tout, il est toujours présent, ça, les bras ouverts pour vous accueillir, le symbole de la nuit.
Avec ce regard incroyable. C'est Dany Laferrière, dans la splendeur de la nuit. Moi, je pense que la nuit, il y a un musée à Paris, le musée Grévin, qui s'éteint, tout devient noir. Et là, il y a des statues de cire, dont la vôtre, Dany, que j'ai pu admirer, et qui tient un livre à la main. Là, le dernier, c'est celui-là. Cette statue, il a le livre à la main.
Oui.
Avec Bernard Pivot en face, prêt à l'interviewer. Ça n'est pas figé.
Non.
Tout ça peut vivre, vit quelque part.
Ah oui, tout peut bouger. Il suffit de regarder ailleurs et de se retourner très vite pour voir qu'ils étaient en train de s'animer.
Merci. Dany Laferrière de l'Académie française qui publie dans la splendeur de la nuit. Magnifique. Collection dirigée par Alain Bancou. Collection Le Point, inédit. Merci beaucoup, Dany.
Merci Patrick.
Et voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage estival. Merci à tous nos amis collègues, à RFI, TV5 Monde, à France Inter. Dany Laferrière, Alain Mabankou, et oui, vous retrouverez tous les liens de leurs œuvres sur notre site popourichaud.com. Merci à Corinne Manjou, animatrice du magazine Vivre Ailleurs sur Radio France Internationale. Merci à DJ Devera. Et oui, je remercie aussi le nouveau partenaire, The Drink Cocktail Pizza Bar, sur la rue Church, coin Maitland, à Toronto. Ne manquez pas le spectacle mensuel époustouflant, haut en couleur, Drag Queen en français, Ménage à trois. Et les auditeurs de Montréal nous ont envoyé plusieurs messages concernant la nouvelle loi linguistique du Québec qui oblige à des dizaines de municipalités de la province à de renforcer le statut bilingue et peu envisagent de renoncer au droit de servir leurs citoyens en anglais ou en français. Un sujet qui fait débat. Et oui, c'est les élections provinciales, je pense, très prochainement au Québec. On en parle. Allez, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur une autre planète. Planète virtuelle de retour en studio le 18 septembre. Bon dimanche, bonne semaine. Que la force soit avec vous. Je vous laisse avec Magic System. Eh oui, ça marche toujours très bien en France et partout en Europe, même dans les Antilles. Eh oui.
Allez, passez une bonne journée, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.
c'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient d'un nous mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler.